perso et Pascal CV.
Midi 29. Hey, ça fait 3 semaines. Elle est revenue. Audrey Pinchot, elle va être avec nous autres dans l'open mic demain, mais 3 semaines pour une coloriste, là. Peut-être un peu long, Pascal.
Elle n'a pas juste fait ça. Pauvre Audrey!
Je savais même pas qu'elle avait changé de couleur de cheveux.
Ben voyons, là, du blond au brun, il faudrait quand même...
Je m'en étais pas rendu compte.
Tu sais qu'on a des bons partenaires d'affaires ici qui ont des lunetteries et des tests.
Oui, hey, on dirait que je porte pas attention à ça.
Ah ouais.
Plus une tendance, si elle file pas, je vais le savoir. Mm. Si tu files pas, je vais le savoir. Mais les cheveux, ça...
Mais du
c'est
blond
comme quand
brun.
Ta blonde a dit « Chérie, est-ce que j'ai changé? Tu trouves-tu ça beau? J'ai changé quelque chose? » Tu le regardes. Ça n'a rien changé, pas en tout.
Je comprends, une petite coupe de poing.
Mais ça
a coûté
comme 400 piastres. Mais, hein? Mais c'est ça, Audrey qui est devenue brune maintenant. Tu es d'accord?
Ben oui, c'est une évidence. Tu es d'accord, même si je ne l'étais pas.
Ben là, je me suis dit, elle va sûrement... C'est pas brun, c'est auburn.
Mais non.
C'est une autre couleur. Hey, les élections présidentielles, ça va-tu finir, ça?
Ouais, je pense que ça pourrait finir demain, mais les vagues seront longues et fortes.
Mais est-ce que ça va finir dans la nuit de mardi à mercredi, genre à 6 h du matin, parce que ça a l'air tellement serré que...
Ah, l'Arizona, c'est pas facile en ce moment, là. Puis je parlais avec Louis Gauthier la semaine passée au téléphone, là,
oui.
hors d'onde, notre chroniqueur international. Puis quand il en jasait, il dit « Je n'ai jamais... » Parce que lui, tout le monde le sait, mais les auditeurs qui ne savent pas, il fait aussi du camionnage. Il est partout sa route, il est souvent aux États-Unis.
Oui.
Il dit qu'il a souvent vu des élections américaines dans sa carrière. De camionneur, puis comment ça se déployait. Mais autant de pancartes, puis le rôle de la pancarte n'est plus le même, du genre promouvoir ton parti, promouvoir tes candidats,
mm-hmm.
versus scraper l'autre candidat de cette manière-là, en mettant des pancartes d'eux avec des X au visage, en étant quelque peu violent parfois sur d'autres pancartes. Il dit, j'ai rarement vu ça d'une telle ampleur. Puis quand tu regardes le pourcentage de publicité américaine, j'ai regardé en Arizona, entre autres, où ça va être quand même ambivalent, c'est ambigu, on veut faire sortir le vote, tu as 80% de la publicité en ce moment qui est de la publicité politique.
Politique.
Ça veut dire, mettons, dans notre bloc à nous, si on avait, je fais un pourcentage très rapide, un calcul très rapide, si on avait 6 publicités à vous présenter, il y en aurait 5 là-dedans qui seraient sur la politique, un candidat ou un parti. Là. Fait que vous en auriez plein les oreilles tout au long de l'émission.
Ouais.
Ça, c'est juste, mettons, pub radio.
Puis, tu sais, ils sont quoi, 330 millions d'Américains? Puis tu fends ça en deux, là, la moitié. Puis t'as un bord, t'as Harris, l'autre bord, t'as Trump. C'est complètement fou. Puis dans des couples aussi, toi, je sais pas, Pascal, t'es pro-Harris, puis ton conjoint, il est pro-Trump. Il doit y avoir de la chicane, carrément. Là.
Ouais, ça doit être dur, en fait, d'être aussi opposé politiquement en ce moment dans des environnements extrêmement violents.
Le truc, c'est t'en parles pas.
Mais en même temps, est-ce que c'est ça qu'on veut en politique? On veut-tu se rendre dans un esprit, puis dans un segment aussi problématique quand on parle de politique que c'est mieux de pas en parler?
Ouais.
Hey, ça en vient triste, là.
Ben oui, mais en même temps, c'est sûr que ça peut donner une chicane à n'en plus
faire. J'ai mal à ma société.
J'ai mis Guillaume.
C'est Guillaume. Ça?
Comment?
Gio.
Jérémy Gio, qui est avec nous. Jérémy, qui est... comment?
Ça me fait rire. On va l'avoir un jour, hein, Jérémy?
Oui.
On va te laisser te présenter.
Qui est directeur chez TACT, chroniqueur politique. T'as-tu hâte que ça finisse, là, les présidentielles?
Ah, je pense que tout le monde a un peu hâte que ça finisse. C'est rare que je dise ça d'une campagne électorale, hein, parce que moi, j'en mange de la politique. Puis je veux pas qu'on se retrouve dans une situation où on peut plus en parler, mais c'est un peu ça qu'on a vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Moi, j'ai rarement vu une campagne présidentielle politique d'une si grande violence. On a entendu le président des États-Unis comparer les supporters de Donald Trump à des vidanges. On a entendu Donald Trump proposer de pendre Kamala Harris, et là, je le mets en guillemets parce que c'est pas mes mots. On a aussi entendu Donald Trump demander à Mme Cheney d'aller essayer de se mettre devant des fusils. C'est une situation qui est présentement sous enquête pour savoir si c'est des menaces à son intégrité.
Ouais. Mais quand tu écoutes la conférence qu'il a donnée au grand complet, là, tu comprends que c'était plus un discours peace and love parce que lui, il voulait pas qu'il y ait de guerre.
À la guerre, là.
Ouais,
mais il n'en demeure pas moins que dans un climat particulièrement polarisé, difficile en ce moment, je pense que d'un côté comme de l'autre, on aurait pu faire un peu attention. Puis moi, c'est ça qui commence un peu à me taper sur les nerfs en ce moment. C'est de dire, OK, là, c'est rendu trop loin. Il est temps que ça termine. Puis il est temps que le 5 novembre arrive. Il faut qu'on passe à autre chose. Mais on passera peut-être pas à autre chose. Hein? Parce que si on n'a pas des résultats, puis des résultats qui sont clairs rapidement, il y a un grand potentiel que ça dégénère comme on l'a vu la dernière fois.
Puis est-ce qu'on va apprendre de ces élections-là pour ce qui est des médias, Jérémy? Parce qu'aux États-Unis, là, il y a des médias qui sont clairement affichés Harris, puis des médias qui sont clairement affichés Trump, puis qui vont aller jusqu'à couper des portions de discours pour mettre une portion où Harris peut mal paraître ou encore où Trump peut mal paraître. Je veux dire, ça fait en sorte que ça nous sépare plus que ça nous unit.
Ben ça, c'est l'éternel discours. Est-ce que les médias vont apprendre ou est-ce que les médias donnent ce que les gens qui regardent les médias veulent? Parce que si on a une responsabilité aussi, nous, en tant que citoyens, de dire, ben moi, ça m'intéresse pas puis ça me fait pas voter. Il y a certains médias qui donnent ce que leur base veut. Moi, je suis pas certain qu'on va voir un changement dans la politique américaine dans les prochaines années. Un grand succès de la campagne de Donald Trump, ça a été d'instaurer ce narratif en guillemets, the enemy from within, l'ennemi de l'intérieur. Et ça, malheureusement, je pense que ça va rester. Et s'il y a un apprentissage à faire, c'est peut-être pour la classe politique de façon générale, la classe qui est peut-être un peu plus l'élite politique. Je veux pas dire la gauche parce qu'il y a une certaine frange de conservateurs aussi qui sont visés par ça. Et c'est notre tendance en politique dans les dernières années à mettre de côté tout un groupe de la société parce qu'on pense que, bon, leur théorie ou leur vision des choses est tellement ridicule qu'on va les bannir. On le voit même au Québec, hein, des fois, on fait des motions unanimes à l'Assemblée nationale qui finit par condamner tout un pan de la société qui pense quelque chose. Mais ça, peut-être que collectivement, on a un apprentissage à faire pour changer notre façon de faire de la politique.
Mais de changer le message d'un candidat, je trouve ça très particulier. On l'a fait pour Harris. Là. À un moment donné, on a, au lieu de prendre son discours au grand complet, il y a un moment où Harris n'était pas capable de lire sur son téléprompteur parce que le téléprompteur n'allait pas assez vite. Plutôt que nous dire qu'est-ce qu'elle avait à dire, puis dire voici ce qu'elle a eu comme propos, voici ses engagements, blablabla, on repassait constamment ce segment-là où, entre guillemets, elle avait de l'air d'une tarte. Puis de l'autre côté, tu parlais du fameux...
L'incident avec Liz Cheney. Non?
Avec Mme Cheney, où Donald Trump parle d'une histoire, c'est-à-dire lui, il ne veut pas envoyer nos enfants à guerre, puis il dit bien... Qu'elle aille à la guerre de bataillon, elle va voir qu'est-ce que ça donne. Ben juste de mettre ce segment-là, en fait, c'est de la mauvaise foi des deux côtés. Puis ça, c'est pas la job des médias d'être de mauvaise foi. Là. En tout cas, le moins possible, surtout quand tu le fais par exprès.
Il y a une réflexion à avoir en même temps. Quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, si un candidat chez nous proposait indirectement ou directement de pendre son adversaire, on en parlerait pendant des mois.
Oui.
Là-bas, on en parle pendant une journée parce qu'il y a une autre calomnité qui se dit, qui est encore plus grosse que la précédente, et on s'habitue rhétorique violente-là.
C'est l'habitude.
Et c'est là. Ouais. Ouais.
On en parlait la semaine passée, Jérémy, puis c'est un commentaire qu'on avait dans le Pit Stop avec Denis Gravel. Quand c'est rendu que c'est une habitude, puis qu'on est plus choqué de ces choses-là, mais il suffit que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui va l'interpréter d'une manière vraiment violente, puis qui sera pas capable de faire la part des choses ou de s'en insurger, pour que ça devienne encore plus commun, puis finalement fasse une montée de tension. Et là, la difficulté, puis pour moi, ça, c'est de la politique de bas de gamme, c'est de la politique du manque d'intelligence, en fait. Puis c'est là où je le déplore. On est-tu vraiment rendu là?
Bien, on est rendu là, et la violence n'est pas qu'à l'endroit des démocrates. Hein. La violence est aussi à l'endroit des républicains. On a vu Donald Trump, une tentative d'assassinat, un homme armé qui s'est introduit sur son terrain de golf. Donc, tout ce climat, cette tension sociale-là, moi, c'est pour ça que je dis, j'ai hâte qu'on tourne la page, j'ai hâte au 6 novembre, même si je redoute les résultats de l'élection, mais en même temps, ça va être une bonne chose que ce soit terminé, ce cirque politique américain. Vous parliez, avant qu'on entre en onde, là, des dépenses électorales, c'est 3,5 milliards de dépenses électorales, dont la majorité, la plus grosse dépense, c'est les publicités à la télévision. Oui. Donc, c'est vraiment... C'est un spectacle, la politique américaine, et je suis bien content que ce ne soit pas encore arrivé chez nous.
Puis j'espère que non, mais souvent, on a des grosses similitudes avec les États-Unis. Au moins, on suit. Des fois, on suit aussi la donne. Puis tu parlais de publicité, là on parle de soirées électorales qui ne seront pas faites parce que l'argent qui... Parce que c'est beaucoup d'argent quand même en faire une soirée électorale. L'argent qui aurait été mis là-dedans n'est pas mis en publicité, puis on a choisi de faire sortir le vote par la publicité, donc de faire cette dépense-là et non celle d'une soirée électorale. Moi, ça me fascine. Mais c'est ça, on est vraiment...
Mais la sortie de vote va faire la différence dans cette élection-là. Oui. Parce que là, si je parle un peu technique, là, du côté des républicains, Donald Trump a mis sa belle-fille en tête du Parti républicain. Ils ont démantelé certaines instances pour donner à l'externe, notamment Elon Musk, la responsabilité de la sortie de vote. Ça, là, tu donnes à un homme d'affaires qui fait pas de politique dans la vie, qui s'occupe de Twitter, qui pense que le vote peut sortir par Twitter. Là. Pour moi, si les républicains échappent l'élection, ça va avoir été ça, la plus grosse erreur de toute la campagne. Parce que les démocrates, de l'autre côté, ils ont une machine de sortie de vote et on voit que ça porte des résultats en ce moment. Quand on regarde le vote par anticipation en ce moment, les nouvelles électrices démocrates dominent la sortie de vote présentement. En ce moment, là, les femmes sont sorties à 53%, contrairement aux hommes à 44%. En Pennsylvanie, le vote des femmes en ce moment est à 14% en avance sur le vote des hommes. Au Michigan, à 10% en avance sur le vote des hommes. Et ça, c'est des États qui sont clés. Et ça, c'est une première victoire démocrate dans le début de cette sortie de vote. Là, après ça, on va voir si ça va continuer de se traduire le 5 novembre. Mais le fait que les démocrates et surtout les femmes dominent le vote par anticipation en ce moment, c'est de bon augure. En tout cas, ça donne confiance aux démocrates.
C'est pour ça que c'est partout dans les caricatures quand tu regardes les médias internationaux et américains en ce moment. Nous, on a nos caricaturistes ici au Québec, mais là, ce qu'on voit majoritairement, c'est vraiment des femmes au vote. Là. Si vous n'avez pas suivi en fin de semaine.
Les femmes pourront probablement donner les clés de la Maison-Blanche et de fermer avec double tour la cellule de Donald Trump, parce que l'autre chose qui va être à surveiller, si jamais Donald Trump perd son élection, qu'est-ce qui va arriver avec M. Trump? Parce qu'il y a encore des procès contre lui, et on sait, dans l'État de New York, c'est pas terminé, notamment. Donc, ça va être intéressant à suivre, parce que lui-même a des intérêts très, très, très personnels dans cette élection-là.
Tu sais, j'ai des amis qui sont spécialement montés aux États-Unis pour les élections américaines. C'est des gars qui trippent sur les États-Unis puis les élections américaines. Qu'est-ce que ça peut te donner mercredi matin? Tu vois, j'essaie de lire, j'essaie de percevoir sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça peut donner là, le mercredi matin quand tout le monde va se lever là, puis ils vont voir présidente Harris ou encore Donald Trump. Tu sais, y a-t-il une guerre? Y a-t-il une guerre civile? Ça a comme pas de bon sens de penser que ça pourrait arriver. Moi, je dis, les gens exagèrent, mais il y en a d'autres sur les réseaux sociaux qui sont persuadés que ça va péter. Moi, je pense qu'il se passera rien.
Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi si la victoire, elle est claire d'un côté ou de l'autre. Mais Donald Trump est déjà en train de préparer ses supporters à presque prendre les armes, à brûler des bulletins de vote, à crier à la fraude électorale, et en multipliant les sondages républicains. Si jamais, mercredi matin ou jeudi, si ça continue à rentrer, les résultats sont très, très clairs et que Mme Harris l'emporte avec une grosse marge, effectivement, il ne se passera rien. Mais moi, le pire scénario que je vois, et c'est un scénario qui est possible, c'est que Mme Harris gagne par très peu de grands électeurs. Là, pour les gens qui nous écoutent à la maison, là, tu peux gagner le vote populaire, mais ne pas avoir le nombre d'électeurs qui est fourni par les différents États pour s'emparer de la présidence. Et il y a 7 États qui sont clés. Si jamais Mme Harris venait à échapper un des 3 États au nord. Donc là, on parle de Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Si jamais un de ces États-là tournait républicain et que les républicains remportaient la Caroline du Nord et la Géorgie, ben là, ça donnerait un scénario où les démocrates pourraient quand même en remporter l'élection, mais avec une très faible marge. Et pour moi, ça, là, c'est le pire scénario. Et c'est le scénario qui pourrait nous mener vers un conflit ou vers un événement comme on a vu le 6 janvier 2020. C'est un, quand les gens ont pris les armes pour manifester et littéralement l'assaut du Capitole.
Et là, c'est encore plus important dans la montée des tensions que cette fois-là. Ça fait des semaines qu'on est en train de travailler sur cette tension-là. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça assez inquiétant. La vision, Jérémy, que tu as, je la partage. Puis je la partage peut-être même si c'est pas si clair que ça, parce qu'il y a des gens qui vont pas suivre cette fluidité dans les sondages puis dans l'élection, qui vont quand même être très frustrés. Tu sais, on jasait encore ce matin, puis tu m'as envoyé une page, justement, de Good Liars du côté de certains médias comme X, des gens qui vont les propager, un genre de violence aussi, une façon de s'affronter entre partisans des deux clans. C'est pas nécessairement seulement de la politique, majoritairement, c'est de l'attitude, puis c'est déplorable ce qui se passe. Mais en tout cas,
Donald Trump a réussi à parler à une classe de gens qui ne se sentaient pas écoutés auparavant et qui maintenant sont prêts à faire à peu près tout ce qu'ils leur disent. Je rappelle, Donald Trump, là, c'est probablement un des candidats les plus controversés de l'histoire. C'est un candidat qui a été reconnu coupable de crimes par les tribunaux. Et même à ça, il est à 47-48% des intentions de vote aux États-Unis. C'est inimaginable. Moi, j'aurais jamais pensé ça, voir ça de mon vivant. Un point tournant pour moi de la campagne électorale, c'est l'effondrement de Mitt Romney dans la course à la chefferie du Parti républicain. Là, ça l'enracinait Donald Trump dans sa position et ça fait qu'on est aujourd'hui où on en est. Et là, de voir le lendemain, le 6 ou le 7 novembre, ce qui va faire la différence selon moi, c'est si les sondages sont vrais et si les sondages se traduisent presque littéralement. Ben c'est le pire scénario parce que en ce moment les sondages placent les deux candidats au coude à coude et là ce que ça donnerait à ce moment-là, ça donnerait probablement une victoire républicaine mais très fine ou une victoire démocrate très fine et ça c'est le pire scénario.
Si je te demandais Jérémy Gillot, les impacts dans nos vies personnelles au quotidien. On est au Canada, nous dans notre cas on est au Québec. Mis à part au niveau économique, y a-tu d'autres impacts majeurs que ça pourrait nous amener?
Un top 5 là.
Mon premier, c'est que ça va nous faire du bien de finalement pouvoir parler de d'autres choses. De pas juste parler.
Mentalement!
De pas juste se demander comment ça se fait que le candidat à la présidence suggère de pendre son adversaire. T'sais, juste ça va faire du bien. Le point de vue économique, je comprends qu'on veut pas en parler, mais il faut quand même en parler parce que du point de vue économique, c'est de l'incertitude. Donald Trump amène à la Maison-Blanche avec lui son caractère, amène avec lui son incertitude. Et ça, ça rend la vie difficile pour les Canadiens qui veulent aller faire des affaires avec les États-Unis. On le voit même dans le marché bancaire en ce moment. Certains banquiers prévoient que si jamais Donald Trump l'emporte, il y aurait peut-être un crash du marché boursier. Fait qu'il y a des impacts très concrets au point de vue économique. Point de vue des voyages, moi, si jamais Donald Trump il gagne, je suis désolé, mais je m'en vais plus en Floride. Je vais avoir plus peur d'aller aux États-Unis, je pense, que dans plusieurs autres pays.
OK. Ouais, je pense que ça. Là, je pense que tu exagères un petit peu. Mais de, l'autre côté, tu sais, quand on regarde ça, Jérémy, au niveau de l'économie, Trump, c'est un protectionniste.
Oui.
Bon,
un ultra-protectionniste. Un ultra. Les démocrates aussi le sont.
Oui, effectivement. Mais le Parti québécois en est un parti protectionniste?
Est-ce que ça aurait un parti protectionniste à la tête là,
ouais,
des États-Unis? Est-ce que ça a comme impact? C'est des tarifs sur certains... Les États-Unis, c'est le partenaire commercial numéro un du Québec.
Rappelle-toi du lait, Yannick, il y a quelques années. Là.
Il y a 5 ans, là, quand on a négocié l'ALENA, ce traité de libre-échange.
Avec le Mexique.
La gestion de l'offre, ouais, pour nos producteurs agricoles. Les tarifs sur le bois d'œuvre pour les producteurs forestiers dans les régions du Québec, ou encore des tarifs sur l'aluminium du Québec parce qu'elle ne vient pas des États-Unis. Tout ça, là, c'est des choses que Donald Trump a dit qu'il augmenterait. Et il n'augmente pas juste de 5 %. Là. Les tarifs, à l'époque, là, il parlait des tarifs de 30 à 50 %, mais c'est ça qui attend notre milieu économique en ce moment si un Donald Trump revient négocier. De l'autre côté, les démocrates sont pas mieux, hein? Les démocrates, de l'autre côté, c'est tous les aspects de la culture, eux, qui les importent parce qu'ils sont très près d'Hollywood. Donc, dans les deux cas, il y a une difficulté qui nous attend d'un point de vue économique, mais c'est l'incertitude qui est attachée à Donald Trump qui est la variable ici qui fait un peu plus peur.
Puis c'est nos grosses industries, là, ce que tu as nommé. C'est pour ça que ça peut être un petit peu dans la vie de tous les jours. De nos agriculteurs, de notre marché, de notre économie. Est-ce qu'il y a des choses en justice, en démocratie, Jérémy?
Bien, on parle souvent de démocratie comme si c'était quelque chose de très loin de nous. Hein. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on a acquis, qui n'est plus en danger. J'ai même entendu certains analystes, certains commentateurs de dire, bon, même si Donald Trump représente une menace, le système démocratique américain est assez fort pour résister. Permettez-moi de mettre ça en doute. Les Italiens, les Espagnols, les Allemands, à l'époque où la dictature s'est installée, se sont probablement dit la même chose à ce moment-là. Fait que quand on a un président qui dit vouloir de la loyauté, comme un peu les militaires avaient de loyauté envers un Adolf Hitler à l'époque, moi, ça me fait craindre pour le fonctionnement démocratique. Je dis pas que c'est ce qu'il va faire, puis Donald Trump a des tendances à l'exagération, mais quand on ne peut pas prendre des propos comme ceux-là à la légère.
Mais surtout, surtout que c'est pas venu de sa bouche. Il n'y a aucun tape qui mentionne ça. C'est des gens qui ont travaillé avec lui, qui le détestent aujourd'hui, qui mentionnent ça. Tu sais, il y a le jeu du téléphone, équipe. Jeu du téléphone arabe aussi. Là, finalement, en bout de ligne, deux ans après, c'est venu de sa propre bouche, alors que c'est que des gens qui ont été autour de lui qui rapportent ce genre de choses-là, qui sont devenus ses ennemis aujourd'hui.
Mais quand ton candidat à la présidence te dit « j'ai une liste d'ennemis que je vais traîner en justice » et que là, le candidat commence à se mettre… Il y a une séparation très claire entre les pouvoirs dans notre société, entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Il y a une raison pour ça. Oui. Et quand j'entends un président ou un potentiel président américain dire « moi, je vais dire au judiciaire quoi faire, puis je vais prendre le législatif, puis je vais le contrôler aussi », qui veut prendre ces trois pouvoirs-là, c'est là que je dis pas que ça va arriver, je dis qu'il y a un risque potentiel qu'on voit une érosion de la qualité de la démocratie aux États-Unis après l'élection. Puis, c'est vrai en justice aussi, là. Donald Trump, en ce moment, ce qu'il est en train de faire, c'est d'inonder les États où les juges sont favorables à Donald Trump pour tout de suite commencer à planter un doute sur la validité du vote électoral si jamais il perdait. Donc, pour moi, c'est très clair. Il y a une érosion qui vient avec une victoire de Donald Trump de plusieurs éléments, que ce soit économique, judiciaire, démocratique, ou encore même juste pour le gros bon sens du narratif en ce moment en matière de violence électorale.
Jérémy Gillot, c'est toujours un plaisir de te jaser. J'espère te parler la semaine prochaine pour faire un débrief de tout ça.
Ben, ça va être bien intéressant parce qu'on va avoir des choses à se dire. Peut-être qu'on n'aura même pas encore de gagnant.
Imagine.
Souhaite-nous pas de malheur, toi. Salut.
Ben, passe une belle journée.
Merci, bye-bye. L'excellent Jérémy Gillot, qui est chroniqueur politique et directeur chez TAC. On parlait de l'impact de la politique américaine dans nos vies. Franchement intéressant. Franchement intéressant. Mais c'est ça. T'sais, est-ce qu'on va le savoir rapidement? Qui gagne? Il y en a qui disent que ça peut se finir à 6 heures du matin, Pascal. Tu vas-tu être devant ton écran de 8 heures le soir jusqu'à 6 heures du matin le lendemain?
Habituellement, je te dirais oui.
Et pas moi.
Là, j'ai des doutes. Là, j'ai des doutes. Ça fait réagir les gens qui ne considèrent même pas les États-Unis comme une vraie démocratie maintenant, que les grands électeurs pourraient théoriquement faire un coup d'État. Certains trouvent que c'était pas trop objectif, que ce que Jérémy disait pour lui, ben, c'était quelqu'un qui était teinté. Mais tu sais, peu importe comment on en parle, que toi, tu parles de Trump, que tu parles de Harris, souvent, par notre caractère politique, ça amène aussi une réflexion de l'auditoire, comme nous mettre dans un carcan puis nous mettre dans une catégorie. Mais tu parles très souvent de Trump, mais tu parles aussi très souvent de Harris pour des bons et des mauvais coups.
Ce qui m'enrage, c'est de la mauvaise foi. Je sais pas... écoute, je vais peut-être être capable de te le faire écouter. Je sais pas si je te l'avais envoyé à toi.
En attendant des textos encore, le monde semble oublier que Trump a été président déjà et que ça n'a pas été si pire selon moi. J'aurais peur d'aller aux États-Unis. Ça fait beaucoup réagir.
J'aurais peur d'aller aux États-Unis. Les amis, vous êtes plus fort que ça.
Mais moi, les États, par exemple, qui sont drastiques dans l'avortement, qui ont une grosse recrudescence de religion, qui ont un genre d'affrontement très, très marqué entre le camp républicain et le camp démocrate, je trouve que la violence y est très forte et ne me fait pas plaisir personnellement. Et ça devient plus une destination très intéressante. Là.
Mais quand tu vas là-bas, as-tu l'impression, tu sais, il y a des États... Mettons que tu vas au Texas, Pascal, là, as-tu vraiment l'impression que tout le monde va te tirer dessus? Pourtant, tout le monde est armé.
Mm-hmm. Bien, je pense que ça dépend d'où tu vas et comment tu te tiens. Mais en Floride, par contre, les dernières fois j'y ai été... Avant la première élection de Donald Trump, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, puis je ne suis pas retournée en Floride autre que pour faire le party l'année passée. Donc, j'ai pas constaté, mais j'aimerais ça me repromener comme j'avais fait la première fois il y a quelques années. Puis là, par contre, j'aimerais constater s'il y a une différence ou si c'est pire.
J'ai des chums, moi, qui sont là, qui ont pas vu de différence pendant le mandat de Donald Trump. Versus... Mais ils s'intéressent pas nécessairement à la politique.
Ça dépend aussi de qui et où tu traînes. Là. Comme je suis allée l'année passée, j'ai fait le party, Yannick n'a pas eu le temps de constater ça.
Ben, c'est ça. Puis c'est le cas d'à peu près 95% des Québécois. Là,
mais ça veut pas dire que c'est pas là. Fait que c'est ça qui est toujours, tu sais, faut en prendre et en laisser, mais il faut aussi constater. Il faut s'ouvrir à tout ce qui est dit autour de nous, pas nécessairement se fermer sur ce qu'on aimerait donc bien.
OK. Tu sais à quel point j'aime beaucoup Stéphane Bureau. Là. Je trouve que Stéphane Bureau, c'est le gars qui représente un peu ce que les médias devraient être. C'est-à-dire, tu ne prends pas de camp, puis tu rapportes la nouvelle là où elle doit être rapportée. Puis quand il y a une nouvelle qui est mal rapportée, tu la reprends et tu la remets dans le bon sens. Richard Latendresse, vendredi, était en entrevue sur LCN à 22h03. Il est arrivé avec une fake news. Et après ça, On a eu le bonheur d'entendre un Stéphane Bureau qui est rentré en onde. Je vous fais entendre l'extrait au complet. Ça dure quand même 4 minutes, mais c'est très drôle. Richard Latendresse qui se fait encore prendre avec des maudites fake news.
De son côté, Donald Trump aujourd'hui a dû composer avec une autre bourde. Est-ce qu'on peut qualifier ça de bourde? Il y a une autre controverse entourant ses propos. Cette fois-ci, c'était des propos tenus à l'égard de Liz Cheney.
Qu'il a tenu hier lors d'une interview qu'il donnait, une sorte de town hall d'assemblée avec Tucker Carlson. Et cette fois-là, il a insulté Liz Cheney, l'ancienne congresswoman républicaine, mais à un certain moment suggérant qu'on devrait la placer devant un peloton d'exécution. Écoutez bien.
She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face.
Liz Cheney a tout de suite réagi via les médias sociaux sur X, l'ancien Twitter, en disant que c'est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres. Ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux.
Salut, Pierre-Yves.
Ça fait jaser ce qu'a dit Donald Trump à propos de Liz Cheney. Le fait qu'il ait évoqué un peloton d'exécution, quel est ton regard là-dessus?
D'abord, c'est pas mon regard, c'est le regard que nous pourrions tous avoir et surtout l'ouïe que nous pourrions tous déployer en allant écouter l'ensemble de ce que dit M. Trump. Il n'a pas dit, et c'est parti en vrille depuis quelques heures, qu'il recommandait de mettre Mme Cheney devant un peloton d'exécution. C'est pas ça. Il parle de ce que depuis de nombreuses années, les États-Unis sont impliqués dans plusieurs guerres, donne en particulier l'exemple de l'Irak, où plusieurs militaires américains évidemment sont morts et des populations civiles entières ont été massacrées, et dit « Madame Cheney est une faucon, une war hog. Elle est dans le groupe des néo-conservateurs, c'est une vote en guerre. Et j'aimerais bien la voir, moi, se retrouver au front comme nos soldats avec les canons des armes dans son visage. » D'ailleurs, il ajoute « Quand on prend une décision à Washington pour partir ou déclencher un conflit, quand on envoie de nos soldats dans la gueule du loup, c'est très rare que nous sommes à leur côté pour voir ce que ça représente. » C'est exactement le sens de ce qu'il dit. Alors évidemment, on peut penser que M. Trump a en tête autre chose, mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il est plus facile de déclencher une guerre que d'aller la faire, et que ceux qui la déclenchent sont rarement ceux qui sont au front. Alors, la clip qu'on a beaucoup entendue aujourd'hui était amputée au début et à la fin d'éléments qui, je pense, contextualisent. Plus encore, il faudrait écouter l'ensemble des minutes que consacre à sa démonstration M. Trump. Et je te propose de réécouter la clip, mais avec un peu de perspective au début et à la fin.
On regarde ça.
She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. You know, they're all war hawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee, Will, let's send 10,000 troops right into the mouth of the enemy.
Mais sur le fond, il ne recommande à aucun moment de l'envoyer au peloton d'exécution.
Ma petite question, c'est pourquoi la tendresse donne encore son avis de correspondant aux États-Unis alors qu'il a clairement, dans ce dossier-là, mentionné une fake news? Le gars, il écoute à peu près tout ce qui se fait sur Harris, il écoute à peu près tout ce qui se fait sur Donald Trump. Ils ont pensé à couper le début et la fin de la clip pour le faire mal paraître le plus possible. Fait qu'on fasse ça du bord de Trump, qu'on fasse ça du bord de Harris, moi, c'est ça qui me tue. Puis c'est la raison pour laquelle j'aime bien Stéphane Bureau. C'est qu'actuellement, il est en France. Il regarde ce qui se passe aux États-Unis, il regarde ce qui se passe au Québec. Puis il se dit, garde, moi, je suis dans le milieu, mais les faussetés, c'est non.
Du moins, la perspective est essentielle. Hey. Puis ça, ça nuit à tout ce qu'on décrit du côté électeur trop agressif aussi.
Ouais, mais...
Parce que tu l'alimentes.
C'est ça, mais Québec...
Tu alimentes cet électeur-là qui nuit à la démocratie parce qu'il va peut-être se fier sur ce qui est sorti.
Québécois, c'est une tristesse. Là, c'est le plus gros média qu'on peut avoir au Québec avec Radio-Canada. Là. Eux, ils comprennent pas pourquoi il y a de moins en moins de gens qui écoutent les nouvelles. Mais c'est pas avec des latendresses, des rapporteurs de fake news que vous allez avoir plus de gens qui vont vous écouter. Vous trahissez votre auditoire. Puis ça, ben, je veux dire, ça peut pas continuer comme ça. Moi, je veux plus de Stéphane Bureau dans tous les médias de ce monde-là. Puis ça va peut-être contribuer à la confiance envers les médias. Mais c'est sûr que c'est arrivé un vendredi à 22h, Pascal. Fait que tu comprends que ça n'a pas eu un gros impact. Mais n'en demeure pas moins que ça en dit long sur le reporter de la politique américaine aux États-Unis, qui est Richard Latendresse. OK, hey, on fait une courte pause, midi 59, 418-971-1021, 418-971-1021, on revient. Marceau le midi.